Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « De zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir » est un guide de finances personnelles de Nicolas Berube, journaliste à la presse et auteur canadien spécialisé dans la vulgarisation financière. Publié initialement au Québec, puis diffusé dans plusieurs langues, le livre vise les personnes qui souhaitent comprendre la bourse sans adopter une démarche de spéculation intensive. Son propos central est que la réussite de long terme dépend moins de la capacité à prévoir les marchés ou à choisir une action exceptionnelle que de règles simples diversification, faible coût, discipline et maîtrise des réactions émotionnelles. Berube défend notamment le recours aux fonds négociés en bourse indicielle, tout en expliquant les mécanismes élémentaires des actions et des obligations. Le livre combine conseils pratiques, résultats de recherche accessibles, observations de professionnels et exemples historiques, dont les déboires boursiers de Isaac Newton. Cette structure sert à un objectif précis, rendre les décisions financières plus compréhensibles et montrer pourquoi une stratégie sobre, régulière et peu chronophage peut être préférable aux réflexes les plus médiatisés. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les ETF indiciels comme outil de diversification à coût réduit. Le livre place les fonds négociés en bourse indicielle au centre de sa méthode. Un ETF indiciel ne cherche pas à découvrir avant tout le monde la prochaine entreprise gagnante, il vise plutôt à reproduire un indice ou un segment de marché. Cette logique permet à un particulier de détenir, par un nombre limité de produits, des participations dans de nombreuses sociétés et parfois dans plusieurs zones géographiques. Berube insiste ainsi sur la diversification, non comme une promesse contre toute baisse, mais comme une protection contre le risque lié à une entreprise, un secteur ou un pays isolé. Le second avantage est celui des frais. Sur une longue période, des coûts récurrents élevés diminuent mécaniquement la part du rendement qui reste à l'investisseur. Une approche indicielle à faible coût limite cette ponction sans exiger des prévisions permanentes. Le raisonnement ne suppose pas que les marchés soient toujours rationnels ni que tous les produits indiciels soient identiques. Il rappelle surtout qu'avant de chercher une performance supérieure, il faut éviter les fragilités évitables, concentration excessive, rotation fréquente du portefeuille et produits difficiles à évaluer. Le choix des ETF devient donc un moyen de structurer une allocation cohérente plutôt qu'un pari déguisé en stratégie. Deuxièmement, la difficulté structurelle de battre les professionnels par la sélection de titres. Une idée directrice du livre est que la quête de la perle rare attire les investisseurs, mais repose sur une difficulté souvent sous-estimée. Acheter une action suppose en effet que le marché se trompe sur son prix ou sur ses perspectives, alors que ce prix résulte déjà de décisions prises par de nombreux acteurs informés. Les professionnels disposent généralement de plus de temps, de données et de ressources que le particulier. Cela ne rend pas toute sélection de titres impossible, mais cela rend peu plausible une supériorité durable obtenue par intuition, recommandation médiatique ou transaction impulsive. Berube oppose à cette ambition la capture de la performance générale des marchés, avec des frais maîtrisés. La distinction est importante. Renoncer à prédire le gagnant de demain ne signifie pas renoncer au profit des entreprises. Un investisseur diversifié peut bénéficier de la croissance et des dividendes de nombreuses sociétés sans dépendre du sort de quelques positions. Le livre met aussi en évidence le rôle du coût dans la comparaison avec les professionnels. Même un gestionnaire compétent doit surmonter ses frais et ceux de son activité pour faire mieux que son indice de référence. Pour le lecteur, la leçon pratique consiste à examiner la stratégie après frais plutôt que de juger une méthode sur quelques performances spectaculaires et récentes. Troisièmement, la répartition entre actions et obligations selon le risque supportable. Le livre aborde la distinction entre actions et obligations afin de relier la composition du portefeuille aux besoins réels de son détenteur. Les actions donnent accès à la propriété partielle de sociétés et offrent un potentiel de rendement supérieur sur de longues périodes, mais leurs cours peuvent varier fortement. Les obligations correspondent à des titres de dette et jouent généralement un rôle de stabilisation relatif, sans éliminer tous les risques, notamment ceux liés au taux et à la qualité des émetteurs. Pour Berube, la question décisive ne se réduit donc pas à identifier la classe la plus rentable dans un passé récent. Elle consiste à choisir une exposition aux baisses que la personne pourra effectivement conserver lorsque les marchés deviennent difficiles. Une allocation trop agressive peut paraître acceptable durant une hausse, puis conduire à vendre au pire moment après une chute. Inversement, une prudence excessive peut limiter la participation à la croissance de long terme. Cette perspective relie la technique financière au comportement. Une bonne répartition est celle dont le niveau de volatilité reste compatible avec le horizon, les objectifs et la tolérance concrète au risque. Les proportions précises ne sont pas présentées comme universelles. Le lecteur est plutôt invité à comprendre les fonctions différentes des actifs et à éviter de confondre rendement espéré. certitude et aptitude personnelle à supporter les fluctuations. Quatrièmement, le comportement d'investisseur face aux baisses et aux bruits médiatiques. La dimension comportementale distingue fortement le livre de nombreux manuels qui se limitent aux produits financiers. Berube montre que les erreurs coûteuses ne proviennent pas seulement du manque de connaissances. Elles apparaissent aussi lorsque la peur, la recherche de validation ou le sentiment de contrôle prennent le dessus pendant les mouvements de marché. Les titres alarmants, les notifications et le commentaire financier continu peuvent transformer une variation normale en urgence subjective. Le conseil de réduire cette exposition ne repose pas sur un refus d'information, mais sur la reconnaissance que suivre chaque fluctuation ne fournit pas nécessairement une information utile à une stratégie de long terme. Les chutes de marché reçoivent une attention particulière. Elles sont pénibles pour un portefeuille déjà investi, mais elles ne justifient pas automatiquement une liquidation. Pour une personne qui épargne régulièrement sur un horizon long, des prix plus bas peuvent aussi permettre de continuer les achats à de meilleures valorisations. Cette idée exige toutefois une réserve de sécurité et une allocation adaptée. Elle ne banalise ni les besoins de liquidité, ni le risque. Le mécanisme proposé est simple mais exigeant: établir des règles avant la crise, automatiser autant que possible les versements, puis éviter de modifier le plan sous le seul effet des nouvelles du jour. La discipline devient ici un avantage plus réaliste que la prédiction. En dernier lieu, les leçons historiques pour démasquer les illusions financières. Berube utilise des épisodes historiques et des erreurs connues pour rendre la finance moins abstraite. Le cas de Isaac Newton, associé à la spéculation sur la Compagnie des Mers du Sud, rappelle que l'intelligence exceptionnelle dans un domaine ne protège pas automatiquement contre les emballements collectifs. Les références au vol de la Joconde et à d'autres anecdotes servent de porte d'entrée vers des mécanismes plus sérieux: attention sélective, récits séduisants, confiance excessive et interprétation trompeuse des événements. Cette méthode est utile parce que le lecteur retient plus facilement une règle lorsqu'il comprend le type de situation humaine qui la rend nécessaire. Le livre ne traite pas ces histoires comme de simples curiosités. Elles soutiennent une critique des promesses de gains rapides et de la croyance selon laquelle il existe toujours un signal permettant de sortir avant les autres. Les marchés changent, mais certains réflexes persistants: acheter après une hausse par crainte de rater une occasion, vendre après une baisse pour retrouver un sentiment de sécurité, ou attribuer une réussite temporaire au talent plutôt qu'au hasard. La portée de ces exemples reste pédagogique plutôt que prédictive. Ils ne permettent pas de dater une crise future. Ils aident plutôt à concevoir une stratégie qui dépend moins de la lucidité parfaite de son auteur, au moment où les émotions et le bruit collectif sont les plus intenses. En conclusion, De zéro à millionnaire convient surtout aux débutants, aux épargnants qui disposent déjà de placements sans en comprendre pleinement la logique, ainsi qu'aux personnes lassées des injonctions à suivre les marchés au quotidien. Les lecteurs cherchant une méthode de spéculation active, des listes de titres à acheter ou une formule de richesse rapide y trouveront un cadre volontairement différent. Le bénéfice pratique principal réside dans la clarification de décisions fondamentales diversifiées. Limiter les frais, distinguer actions et obligations, établir une allocation soutenable et résister aux modifications impulsives. Sur le plan intellectuel, le livre aide à replacer la finance dans un contexte de probabilité et de comportement humain, plutôt que dans celui des certitudes rétrospectives, souvent mises en avant par les récits boursiers. Par rapport à de nombreux ouvrages de finances personnelles, il se distingue par une articulation accessible entre investissement indiciel, psychologie d'investisseur et anecdotes historiques. Son ambition ne consiste pas à rendre le lecteur expert en analyse financière, mais à lui donner des repères suffisants pour éviter les pièges les plus répandus. Le ton de vulgarisation et les exemples concrets rendent le sujet abordable sans masquer la réalité des fluctuations ni des risques. Sa perspective québécoise et canadienne peut aussi parler directement à ce public, même si les principes exposés sont plus larges. En définitive, ce livre se démarque par la sobriété de sa proposition. Moins de prévisions, moins de transactions et davantage de cohérence entre une stratégie, ses coûts et la capacité réelle du lecteur à la suivre durablement. Si vous souhaitez soutenir Nicolas Berube, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.